Ah, peut-être oui. Voilà, très bien. Voilà, donc je vais essayer d'accélérer un peu quand même. Donc pour terminer, donc on a vu ce que était le jeûne dans diverses religions, tout ça. Le jeûne dans la Bible, avec ce côté un peu en demi-teinte, on a dit. Après, on a vu, on était entré dans les bénéfices du jeûne. Donc on va terminer sur les bénéfices du jeûne. Et puis après, les dangers que le jeûne représente. Alors, dans tous les bénéfices qu'on a vus, on a vu donc on mesure notre faim devant Dieu, le bon ordre des valeurs, jeûne et liberté, mieux se connaître maintenant, on est là. Donc, quand on est dans le jeûne, c'est un temps à part. On se place volontairement dans une situation à la fois physique et d'organisation de vie qui n'est pas habituelle. Et donc, quand on est dans notre vie habituelle, eh ben, on a des réflexes habituels, des comportements, tout ça. On ne se connaît pas vraiment parfois. Et d'un seul coup, dans le jeûne, on dit stop, on se trouve devant le Seigneur, on fait le point, on a du temps, et on prend conscience de certaines choses. Et je crois que ça, c'est très important. Pendant le jeûne, on se retrouve vraiment et on prend conscience de ce qu'on est au fond. Et même parfois, il y a des choses qui ressortent. La colère, la frustration, l'insatisfaction de telle situation qu'on n'a pas vraiment conscience que ça nous mine. Et d'un seul coup, devant le Seigneur, les choses s'éclaircissent, se font jour, on se connaît mieux, quoi. Et donc, il y a cette démarche-là qui est importante aussi dans le jeûne et la prière. Et on pourrait dire, on n'a pas besoin de jeûner pour ça. Mais le jeûne, ça nous place, de fait, dans une position inhabituelle, quoi. C'est quand on est dans l'inhabituel qu'on se révèle, quoi. Et donc là, on se passe dans cette position-là, on est devant le Seigneur, et je crois que l'Esprit de Dieu est là aussi, dans le jeûne particulièrement, dans ce contact avec Dieu qu'on recherche, hein. Le point majeur, c'est comme la fin de Dieu. On s'approche du Seigneur, il va nous révéler, quoi. Il va nous révéler sur notre vie ce qu'on est vraiment. Voilà, donc mieux se connaître, c'est un point important, je crois. Un autre point qu'on voit ressortir dans la parole de Dieu assez fréquemment, c'est le jeûne qu'on peut placer dans notre vie à un moment donné où on a besoin de connaître le plan de Dieu. On a une vie qui est bien lancée, bien établie, qui a ses richesses et ses faiblesses, etc. Et puis, à un moment donné, on se dit, tiens, mais après tout, est-ce qu'il n'y a pas un autre service, un autre appel? On a dans notre vie comme ça, des fois, des moments, des aiguillages, quoi. Un changement de travail, un changement de logement, ou même encore plus fondamentalement, au moment du mariage, ou quand on engage un service pour Dieu. Enfin bref, à diverses occasions, il y a quand même des marques comme ça dans notre vie, des points de repère. Et là, je crois que c'est bien pour le chrétien de se dire, tiens, si devant le Seigneur, je faisais le point vraiment. Vous savez, quand on cherche le plan de Dieu, la volonté de Dieu, c'est souvent une question qui revient. On parle de questions-réponses, là. Mais je sais par expérience que si on met, mettons, dans un camp de jeunes ou d'ados, même dans l'église, d'adultes, une boîte à questions au fond de la salle, une chance sur deux, il y a une question, c'est comment je peux connaître le plan de Dieu pour ma vie, quoi. C'est ça. C'est un point qui revient souvent. Eh bien, je crois que ce n'est pas de tellement dire « je vais avoir un signe », etc. C'est de chercher vraiment devant le Seigneur sa révélation, son plan, sa paix, quoi. Quand on est devant lui et qu'on fait le plan, le point, les choses s'éclairent. Alors, il y a ces dimensions-là, mais il y a aussi le fait, on voit dans la parole de Dieu, que pour partir sur de bonnes bases, quoi, ce temps de contact avec Dieu, avant de s'engager, est important. L'exemple majeur, c'est celui de Jésus, bien sûr, hein. Après son baptême, vous savez, après le baptême de Jean-Baptiste le baptisé, sorti de l'eau, et tout de suite après, dans les trois synoptiques, avec des mots un peu différents, mais il nous est dit que Jésus a été entraîné dans le désert. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Aussitôt, l'Esprit poussa Jésus dans le désert, où il passa 40 jours tenté par Satan. Et dans Luc, là c'était Matthieu et Marc, et dans Luc, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'il fut écoulé, il eut faim. Donc là, on retient pour l'instant cette idée que Jésus, avant de s'engager dans cette nouvelle phase de son ministère, le rôle important qu'il avait de porter le royaume, quoi, d'apporter les éléments du royaume et d'en accomplir la possibilité au travers de son sacrifice, c'était le tournant, quoi. Il avait vécu sans péché, un homme extraordinaire, mais non pas connu, non pas vu du grand public, je dirais, hein. Et là, il y a un tournant. Et donc, à ce tournant-là, il jeûne. L'esprit le conduit à jeûner dans le désert où il va être tenté, il va être éprouvé, tout ça. Et je pense que Jésus, vous savez, était parfaitement Dieu et parfaitement homme. Hein. Et bien, dans son humanité, c'était important qu'il ait ce temps devant le Seigneur pour mettre les choses bien au point. On note là, mais on en parlera peut-être un peu plus tard si on a le temps, il a pas, on l'a dit, hein, c'était pas un jeûne absolu. Il a été privé de nourriture. Hein. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'il fut écoulé, il eut faim. On voit aussi Paul et Barnabas, bien sûr. Hein. Ils travaillaient pour la gloire de Dieu dans l'église d'Antioche et tout ça, formidable et tout. Et à un moment donné, l'appel de Dieu se fait. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène et Manaen, qui avaient été élevés avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés ». Puisque là, c'est le jeûne dans l'Église. On peut penser, quand on voit ça, que dans le service de Dieu, tel que l'Église vivait à Antioche, il y avait des temps de jeûne et de prière, et ils jeûnaient par rapport au service de Dieu. Ils ont reçu l'appel de Dieu dans ces conditions-là. Mais avant de partir, alors, après avoir jeûné et prié, et ça, c'est autre chose. C'est un jeûne qu'ils ont mis là, au départ de leur nouveau ministère, pour être vraiment conduits par le Seigneur. Et donc voilà, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains donc, et ils les laissèrent partir. Voilà. Donc il y a cette idée de partir sur de bonnes bases au travers du jeûne. Donc voilà, le conseil simple que je donne là, c'est qu'à un moment donné, c'est bien de se tenir devant le Seigneur, de faire le point avec lui, de chercher sa face, parce qu'on va entreprendre quelque chose et qu'on ne veut pas se tromper tout simplement. Quoi. Alors, je ne dis pas que c'est absolument nécessaire. Hein. On peut aussi entreprendre et réussir des choses pour Dieu sans avoir jeûné avant. Hein. Je répète, hein, le jeûne, ce n'est pas un point de passage obligé. Mais c'est quand même, là, on voit que c'est l'un des bénéfices, en tout cas, l'un des bénéfices du jeûne. Un autre bénéfice aussi qu'on peut ressortir, c'est qu'il y a des fois dans la vie des combats particuliers. Et que parfois, ces combats-là, ils trouvent leur solution vraiment dans le jeûne. Trouver la délivrance de certaines chaînes, de certaines habitudes. Est-ce que j'ose parler d'addiction ? Je ne suis pas en train de vous dire, il y a un alcoolique, il a une addiction à l'alcool, il va jeûner 3 jours, il sera délivré, ce n'est pas ce que je dis. Mais je dis quand même que dans le jeûne, on trouve des clés de liberté. On trouve là l'idée de liberté dans le jeûne. On trouve des clés de liberté et on peut avoir des victoires personnelles très importantes au travers du jeûne. Ah, c'est un père de l'Église, j'ai vu ça en préparant tout cela. C'est Cyril de Jérusalem, un des pères de l'Église, qui prend cette image d'un serpent qui se cache dans un trou pour muer de peau. Hein. Donc il change de peau, c'est dur, il perd sa peau, tout ça, mais finalement il rajeunit. Et quand il sort, ben, c'est un autre serpent plus vigoureux, tout ça, il a changé de peau. Quoi. C'est un peu cette idée, une victoire personnelle dans le jeûne, on peut trouver cela. Parce que c'est, je reprends cette idée du stabilo de la vie chrétienne. Hein, je veux dire, on peut trouver tout cela, tout ce que j'ai dit, dans d'autres circonstances. Il n'y a pas vraiment absolument besoin de jeûner pour avoir tous les bénéfices dont je parle. Mais le jeûne permet de nous mettre ces choses-là bien en évidence et nous donner des victoires personnelles, en l'occurrence. Alors, bien sûr, on peut penser au jeûne qui, plus directement encore, peut être associé à un combat spirituel contre les puissances du mal. Vous connaissez ce verset qui est un peu seul pour défendre ce point de vue, mais qui est quand même dans la parole de Dieu. Jésus dit « Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. » Donc il ne s'agit pas pour nous de voir la puissance qui peut nous être donnée dans le contact avec Dieu comme une rémunération du fait que nous avons jeûné. Ah ! Mon enfant a jeûné, eh ben, je vais lui donner, voilà, il va avoir la joie d'avoir une puissance supplémentaire. C'est pas ça, c'est comme ça qu'il faut voir. Ni comme un dû. Mais je crois que, alors qu'on s'approche de Dieu, alors que nous jeûnons, il y a quand même une dimension, je dirais, d'acuité spirituelle, de présence à nos cœurs des choses de Dieu, des choses surnaturelles, qui se trouvent accrues, parce qu'on s'est approché de Dieu d'une façon plus intense, plus vraie, plus profonde. Et dans cette dimension-là, on découvre à la fois une dépendance de Dieu et une autorité qu'on avait déjà. On n'a pas besoin du jeûne pour ça, mais quand même, on la découvre avec une intensité particulière. Et donc, je crois que là, il y a aussi un élément qui peut contribuer à ce que nous trouvions des victoires. On trouve ça dans Matthieu 17, hein, c'est la guérison de l'enfant lunatique. On peut aussi penser à cet égard, là c'est l'Ancien Testament, mais Josaphat attaqué par tout un tas de peuples. Hein, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon, c'est dans 2 Chroniques 20, versets 1 à 4. Et avec lui, les Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Atsatson, à Tamar, qui est Engedi. » Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Et donc, on voit, quand on lit la suite du texte, que le jeûne a permis au peuple, je sais pas, on sait pas trop, mais il s'est placé devant le Seigneur, après le prophète a parlé, ils ont retrouvé une dimension de la louange, et dans la louange, ils ont pu avoir la délivrance, mais ils ont changé d'orientation, trouvé le chemin de la délivrance au travers de ce jeûne qu'ils ont vécu ensemble. Donc voilà, c'est un point que nous retenons, hein, le jeûne associé à la victoire, soit personnelle, soit collective. Alors la liste est bientôt finie, mais il y a encore 3 points sur les bénéfices du jeûne. Le jeûne, je disais au départ, on partait de ce texte qui reste le texte fondamental, hein, tous les commentaires que je donne depuis sont des éclairages, mais le texte fondamental, c'est quand même la parole du Seigneur. Hein. Quand les poules leur seront enlevées, ils jeûneront. Hein, c'est cette fin de Dieu parce qu'on veut la présence du Seigneur. Et donc, quand on pousse cette idée un petit peu plus loin, on s'aperçoit qu'il y a un lien certainement entre le jeûne et l'expression de notre attente de son retour. Et j'en veux pour preuve, du moins pour élément significatif, le parallèle qu'on peut faire avec le jeûne d'Anne, la prophétesse, pas la mère de Samuel, hein, mais Anne qui attendait Jésus, qui avait reçu dans son cœur, avec Siméon, que l'heure était là, que le Messie viendrait. Et voilà ce qu'il nous est dit. Luc 2, chapitre 20, versets 25 et 26. Luc 2, 25 et 26. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux, il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Seigneur, le Christ du Seigneur. Et un peu plus loin, il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Azer. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Et on voit Anne et Siméon dans le temple, vieux, âgés, je ne sais pas quel était le regard des autres sur Anne et Siméon. Mais dans leur cœur, ils savaient qu'ils vivaient la fin d'un monde et qu'une autre perspective allait s'ouvrir. Ils avaient reçu dans leur cœur, Siméon en tout cas, qu'ils ne mourraient pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Et dans cette attente-là, oui, ce n'est pas une attente dans la lamentation de tout ça, mais c'est cet ardent désir que le Seigneur est à la porte, il va venir. Alors elle jeûnait. Je crois qu'il y avait certainement des indices prophétiques et autres assez forts dans l'époque d'Anne pour qu'elle puisse s'attendre à ce que le Seigneur revienne. Mais l'Esprit lui avait dit, Anne et Siméon. Mais qu'en est-il de notre temps ? Je crois vraiment que nous sommes dans le temps, ou alors là, encore pire qu'Anne en son temps pour attendre le Messie, nous savons que là, les signes sont là. Enfin, ce n'est pas le sujet ce soir de parler de tous les signes, mais enfin, ils sont là, vous savez bien, je pense. Hein. Et donc, je crois, dans cette perspective, le jeûne exprime qu'on a compris ces signes-là, qu'on attend le retour du Seigneur. Il revient bientôt, j'ai hâte de te voir, comme si il va y avoir un bon repas, je ne vais pas quand même... J'ai poussé un peu le bouchon, vous comprenez l'idée, je ne vais pas quand même manger comme ça dans ma vie, tout ça, alors que je sais que demain, il y a un super repas qui m'attend. Voilà. J'attends. Je dis ça dans un sens spirituel, bien entendu, vous comprenez. Hein. On est dans l'attente du Seigneur. On a faim de lui. Il revient bientôt. Alors on jeûne pour l'exprimer. Voilà. C'est une dimension qui, je crois, peut être exprimée par rapport aux jeunes. Pour Anne, la gloire du peuple de Dieu semblait derrière, très contestée, les Romains dominaient, il y a un nouvel ordre du monde qui semblait s'établir et qui excluait, bien sûr, la place de Jérusalem, le temple et tout ça, c'était la fin d'un monde et ils en souffraient, même malheureusement, même quand les pharisiens s'argoutaient sur la loi de Moïse et tout ça, ils se trompaient complètement, ils avaient tort, et même enfin, grand tort, mais enfin, quand même, il y avait cette dimension-là, quoi, la fin d'un monde, quoi, et le Messie venait. Anne et Samuel le savaient. Et nous sommes dans un monde qu'on appelle parfois post-chrétien. J'ai horreur de cette expression. Je ne dis pas que le monde est post-chrétien, là. L'Évangile est en pleine progression, au contraire. Nous sommes dans les temps de les plus l'arrière-saison. Le Seigneur revient et nous l'attendons. Et nous sommes conscients de cela et nous jeûnons. Voilà. C'est ce que je veux dire. Et en poussant la pensée un peu différemment encore, on s'aperçoit qu'il y a un lien... Un lien historique très, très net entre le jeûne et le réveil. Qu'est-ce que c'est que le réveil ? On prie pour le réveil, tout ça. Qu'est-ce que c'est que le réveil ? On peut le voir de diverses façons, mais en gros, c'est quand, à un moment donné, pour des raisons qui assez largement sont inexpliquées quand même, eh bien, il y a une action de Dieu particulière sur une région, sur un peuple, sur un pays, Et d'un seul coup, on voit des conversions en grand nombre, une œuvre de Dieu qui se fait d'une dimension qui peut surprendre. Et ce sont, je ne parle pas d'un rêve, là, je parle de réalité historique. Et prenons conscience qu'il y a eu des moments dans l'histoire où vraiment des choses extraordinaires se sont passées dans le développement de l'Église. On peut parler de l'Église primitive, bien sûr, hein, c'est quand même... En quelques dizaines d'années, l'Église s'était implantée. Et puis, au début du 4e siècle, quoi, en 313, l'Empire entier s'est déclaré chrétien. Grand tort, parce qu'un empire ne peut pas être chrétien. Mais enfin, quand même, il y avait eu une évolution. C'est extraordinaire. Et on s'aperçoit qu'il y a eu, dans les siècles passés, des temps de réveil. Et on s'aperçoit aussi, quand on regarde les choses de plus près, que ces temps de réveil, par exemple, au XIXe siècle, avec Jonathan Edwards, là, aux États-Unis, ou même le réveil de Corée, ou tout ça, et bien, le jeûne avait une grande place. Et là, il y a une petite chose que j'aimerais préciser. C'est un peu ce que j'ai tout à l'heure à propos de des chevilles qui deviennent fermes, qu'est-ce qui se passe en premier. Et souvent, on pourrait croire, non mais il faut que l'Église se mette en prière, qu'elle jeûne, pour que le réveil vienne. Comme si le réveil allait être la rémunération de notre jeûne. C'est peut-être en partie vrai, mais pas vraiment. Ce que je dis, ce n'est pas ça. C'est que le jeûne fait partie du réveil. C'est que quand l'Église se réveille, elle jeûne. Voilà. Et on s'aperçoit même, quand on regarde de plus près, notamment pour le réveil de Pentecôte en France, là, au début des années 30, eh bien, il y a eu cette manifestation du désir du jeûne parmi quelques chrétiens au Havre, un peu comme c'était prémonitoire, on pourrait dire. Hein. Je ne sais pas si le terme est très, très bon, là, mais ça annonçait quelque chose, en fait, ce désir spontané, subit, qu'ont eu quelques chrétiens de jeûner pour attendre le réveil. Et quand le réveil est venu, alors là, le jeûne a été replacé vraiment dans toute son importance. Et je crois que le jeûne est associé au réveil. Je n'ose pas dire vraiment pleinement, je le pense un peu, mais sans le croire vraiment, je sais pas. Est-ce qu'on ne peut pas dire à contrario, par contraste, par miroir, que l'abandon du jeûne, c'est un signe de refroidissement ? Je ne vais pas jusque-là. Je ne vais pas jusque-là parce que je me méfie toujours quand on donne... En fait, donner un jugement comme ça en porte-pièce sur l'Église de toute une génération, c'est un peu juger le Seigneur, comme si le Seigneur n'était pas maître de la situation. Son Église aujourd'hui, elle est belle, quoi. Je ne suis pas de ceux qui disent « Ah, les chrétiens maintenant, ils sont froids. Ah, les chrétiens de maintenant, ceci. Ah, les jeunes de maintenant, ils sont nuls. » Tout ça, il ne faut jamais dire ça. Mais je dis quand même que quand les... non, je dis quand même que le jeûne est associé et que le chrétien qui jeûne parce qu'il attend le retour du Seigneur, il ne dit pas « Moi, je vais être l'outil du réveil, etc. » pour obtenir. Mais c'est un signe de la présence de Dieu, de l'action de Dieu. C'est dans ce sens que je le dis, quoi. Et je crois que cette dimension est importante aussi dans le jeûne. Alors, à cet égard, je voudrais attirer votre attention sur ce qui me semble être, pas une erreur d'interprétation, mais quand même un excès d'interprétation, on va dire. c'est quand on prend ce texte de 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, vous connaissez bien cela, hein. « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies, j'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché et je guérirai son pays. » Et on entend parfois dire, sur la foi ce texte-là, « Eh bien, voilà, la France est un pays qui est vraiment très largement opposé au Seigneur, qui défend une laïcité qui n'est pas la vraie laïcité, qui est une laïcité souvent anti-Dieu, quoi, en fait. Hein. » C'est un peu à l'importe-pièce que je dis ça, il faudrait nuancer, mais enfin, c'est quand même un peu vrai. Eh bien, puisque là, j'applique ce texte-là, et si le peuple se met à prier, à s'humilier, à jeûner, alors, eh bien, le pays sera guéri, la France sera guérie parce que les chrétiens vont jeûner. L'idée est belle. Elle n'est pas totalement fausse. Mais je crois que c'est forcer le texte. Parce que le pays dont il est question, c'est le pays d'Israël par rapport au peuple d'Israël qui a une vocation particulière. Et si on veut transposer ce texte-là dans les temps de maintenant, ce qui est tout à fait légitime, mais à ce moment-là, il faut le transposer par rapport à l'Église et au royaume de Dieu. On ne peut pas dire que la France ou que l'Angleterre ou que la Suisse ou que le Portugal a dans le cœur de Dieu la place, une place identique à celle qu'avait Israël dans l'Ancien Testament, quoi. Et je crois qu'on pousse l'interprétation un peu loin. Moi, ce que je crois, c'est que quand les chrétiens jeûnent, c'est le signe que le Seigneur agit, va agir et agit d'ailleurs. Au travers du jeûne même, il agit. Le fait que les chrétiens jeûnent, c'est déjà l'action du Seigneur et que le réveil est là. Mais dire aux chrétiens, voilà, vous allez jeûner et comme ça, le pays, la France va, voilà, le gouvernement va changer, la France va se convertir, tout ça, je crois que c'est aller trop loin. Et après, on va vers des déceptions. Parce qu'on dit, ça fait 20 ans qu'on jeûne pour que le Seigneur guérisse le pays, alors qu'on ne voit pas que l'Église grandit beaucoup, que les chrétiens voilà. Donc, il faut quand même être très, quand même un peu prudent à cet égard. Alors, juste, donc, oui, pour continuer sur les bénéfices du jeûne, je crois que, paradoxalement, le jeûne nous apporte une dimension qui nous fait prendre conscience que le travail social, qui pourtant paraît très très distant de l'engagement cultuel du jeûne, le jeûne c'est l'engagement cultuel, j'entends par là que c'est par rapport au Seigneur, que quand on jeûne, on n'est pas a priori dans la pensée, dans tout ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, je n'ai pas parlé d'aller aider ceux qui sont dans la misère, d'aller soutenir les migrants actuellement, ou d'aller... je n'en ai pas parlé. Et vous pourriez me le reprocher. Parce que vous me diriez, mais attends, t'as oublié Ésaïe 58. C'est Ésaïe 58. C'est l'un des textes où le Seigneur parle avec une très grande solennité, en fait. Une très grande solennité. Et qu'est-ce qu'il dit? C'est Dieu qui parle à Ésaïe. Et il dit, crie à plein gosier, ne retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies, comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Ils désirent l'approche de Dieu. C'est ce qu'on a dit du jeûne, nous. Que nous sert de jeûner, si tu ne le vois pas, de mortifier notre âme, si tu n'y as point égard? On a dit quand même que le jeûne du Nouveau Testament, ce n'est pas de mortifier son âme. Voici, le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer, et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue d'en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Donc voilà, crie à plein gosier, tu jeûnes, mais en fait, ton comportement n'est pas du tout à la hauteur, tu traites durement les gens, tu ne te rends pas compte qu'il y a des besoins, qu'il y a de la misère, tout ça. Toi, tu es là devant ton Dieu et tu jeûnes. Hein. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre, est-ce là ce que tu appelleras un jeûne, un jour agréable à l'éternel? Non, non. Ça, c'est le jeûne rituel, ça, dont on a parlé. Le jeûne que Dieu n'approuve pas, ne reçoit pas, ne peut pas recevoir. C'est un jeûne religieux qui peut porter de bons sentiments, mais non. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug, partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans la maison, dans ta maison, les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors c'est bizarre, parce que voilà le jeûne auquel je prends plaisir. On a l'impression qu'il ne parle plus du jeûne, le Seigneur, là. Même que ça n'a rien à voir avec le jeûne. Mais je crois que ça a à voir avec le jeûne. Et je pense que la démarche authentique du jeûne ameublit nos cœurs, quoi. Et que c'est une anomalie. Ce serait une anomalie que de dire, moi je cherche la face de Dieu, j'aime le Seigneur, je m'approche de lui, j'attends son retour, je veux prendre les victoires personnelles, tout ce qu'on a dit de bien sur le jeûne, et de ne pas se rendre compte que le chrétien, c'est aussi quelqu'un qui a à cœur les autres. Le jeûne, c'est le stabilo de la vie chrétienne, y compris dans ce domaine-là. Il n'y a pas besoin de jeûner pour avoir compassion. Mais je crois que celui qui jeûne, il se trouve aiguisé dans les choses du Seigneur, y compris dans ce domaine-là. En tout cas, c'est ce que je vois dans la parole de Dieu. « Alors tu appelleras et l'Éternel te répondra, tu crieras et dira, me voici. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies la main indigente, ta lumière se lèvera sous l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, il rassasiera ton âme. » Ça, on a vu que c'était ça le jeûne, hein, d'avoir l'âme rassasiée par la présence du Seigneur. Il redonnera la vigueur à tes membres, tu seras comme un jardin arrosé, comme une source d'eau dont les eaux ne tarissent pas. Voilà. Donc ce lien important entre le jeûne et l'œuvre de compassion, on va dire. Hein. Je crois que la clé, c'est que le cœur du Seigneur est un cœur de compassion. Et que quand on s'approche du Seigneur, si on s'approche avec intensité, comme le jeûne le préconise, eh bien, on trouve certainement auprès du Seigneur ce désir de compassion. Alors, un peu en dehors de ça, mais dire un mot dans le bénéfice du jeûne qu'il y a eu dans... Alors, ce n'est pas pour contredire ce que je disais de Deux Chroniques 7, sur le comme peuple s'humilie, etc. Mais c'est vrai qu'on voit aussi dans l'histoire que des jeunes, je dirais, nationaux, alors ça nous fait rêver, nous qui sommes un pilier laïque, on n'imagine pas du tout. Alors là, que la Chambre des députés, un seul coup, décide que les choses vont mal, qu'il faut jeûner, là, c'est pas possible. C'est... Mais vous savez, ça a existé. J'ai deux exemples, là, mais il y en a d'autres. Hein. Par exemple, c'était à Genève, du temps de Calvin, c'était assez fréquemment que Calvin... Bon, alors, avec tous les excès aussi de ce que pouvait être Genève de ce temps-là. Mais quand même, l'expression « publier un jeûne », c'est cette idée qui est complètement... nous, quand on organise un jeûne dans le planning de l'Église, on ne dit pas « on publie un jeûne », hein, quand même. Cette idée de publier un jeûne, c'est quand même quelque chose d'assez fort. Pour tout un, voilà. Et donc, il publiait un jeûne à Genève et les gens jeûnaient. À Genève, les gens jeûnaient. Mais il y a aussi... Un exemple frappant, c'est Abraham Lincoln. C'est un chrétien, vous savez. Il a beaucoup œuvré, comme vous savez, pour la libération de l'esclavage et tout ça. Et en pleine guerre de sécession, en 1863, c'était au milieu de son mandat à peu près, c'était 2 ans avant qu'il soit assassiné, et il a fait voter au Congrès l'appel à un jeûne. C'est écrit dans les actes du Sénat américain. Et donc, un jeûne, alors il y a tout un texte, bon, je ne l'ai pas noté, mais un texte vibrant, quoi, pour dire, voilà, il faut que le peuple revienne. On a été tellement bénis depuis. Alors, il passe dans la perspective américaine, ça fait mettons, je ne sais plus combien, ça fait 60... Non, il dit ça fait 80 quelques années que les États-Unis ont déclaré leur indépendance, depuis 76 qu'en 63, depuis 1776 jusqu'à 1863, donc ça fait, je sais pas, ça fait, mettons, un peu plus de 80 ans, que les USA ont été bénis, on a tellement été bénis, on s'est enrichi, on s'est multiplié, tout ça, c'est ce que dit Lincoln, et on a abandonné Dieu. Et voilà, on en est dans la guerre et tout, il faut jeûner. Et il a appelé un jeûne, c'est extraordinaire, hein, ça, quand même. Ça, c'est, voilà. Je ne dis pas que tout ce que les Américains font, c'est bien, mais là, quand même, c'était pas mal. Donc ça existait des jeunes comme ça, mais à notre dimension, nous, on va pas publier un jeune en France, hein, dans l'Église en tout cas, le jeune collectif, il peut tout à fait être programmé. Alors, il y a plusieurs façons de voir, il n'y a pas de règles à cet égard. Hein. On peut voir, comme je l'ai dit, comme je l'ai vécu simplement pendant des années, un jeune qui avait le danger de devenir rituel finalement, mais qui avait le mérite d'exister, et on prenait au moins le temps d'être devant le Seigneur, donc une fois par mois on jeûnait comme ça, bon. Il y a cette pratique régulière. Je pense que ça a deux bénéfices. D'abord, ça encourage les gens à jeûner personnellement. C'est-à-dire que on a vu que dans tout ce qui est du jeûne, c'était à beaucoup d'égards une démarche personnelle, quand même. Mais je crois qu'engager la démarche personnelle, on peut, et il est tout à fait possible de le faire. Mais si on sait que dans l'Église on jeûne, on est quand même on s'encourage les uns les autres, quoi. Donc il y a tout ce que j'ai dit là, des bénéfices du jeûne, qui sont en grande partie des bénéfices personnels quand même, eh bien, on peut les trouver collectivement au travers d'un jeûne collectif. Mais ce n'est pas la dimension vraiment du jeûne collectif, quand même, vous comprenez ça. La dimension du jeûne collectif, c'est devant un problème particulier que nous avons collectivement, une décision à prendre, un problème dans l'Église, l'Église qui se divise, des choses qui arrivent hein, quand même, des problèmes ou de grandes bénédictions à entreprendre ou l'envoi d'un missionnaire ou que sais-je, enfin, des phases importantes de la vie de l'Église, l'Église collectivement dit on va placer ça devant le Seigneur, quoi. Le jeûne collectif a toute sa dimension. Ce sont des choses qu'on peut tout à fait voir par rapport à la parole de Dieu. Alors voilà, donc j'essaye d'aller vite. Oui, j'ai encore un petit quart d'heure. Donc là, on a vu, on essaie de passer en revue rapidement, mais enfin quand même, on a passé en revue un certain nombre, une panoplie assez large quand même, de tout ce que le jeûne pouvait apporter. Selon les besoins de chacun, on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses différentes. Mais je vous avais dit, attention, tout ça, ça paraît. Et puis il y a quand même des dangers dans le jeûne. Il y a quand même aussi des clignotants qu'il faut allumer. Alors je vais allumer quelques clignotants, dont certains, je les ai déjà allumés, mais d'autres pas encore. Il y a d'abord le clignotant de la religiosité. Ce n'est pas spécifique aux jeunes, c'est vrai de toute la vie de piété. La vie de piété est nécessaire. Il faut passer du temps devant le Seigneur dans le culte personnel. Il faut que nous lisions notre Bible, il faut que nous allions aux réunions, il faut qu'on ait à cœur d'aimer de servir Dieu, il faut apporter l'offrande dans l'Église, etc. Les œuvres de piété. Et elles sont nécessaires, mais elles sont tout à fait perverties quand elles deviennent obligatoires. Et la frontière est très ténue. Entre dire « j'apporte mon offrande parce que je fais un cadeau au Seigneur » et dire « ben non, il faut que je donne ma dîme », c'est pas pareil. Le résultat est pareil, c'est le même, ça tombe pareil dans le tronc, mais c'est pas pareil. Et la frontière entre les deux est très ténue, en fait. Et là, pour le jeûne, c'est pareil, surtout si on s'engage dans des jeûnes réguliers. Ce qui est bien d'un sens, parce qu'au moins ça nous tient quelque part, on a besoin de ça aussi. Si je dis je jeûne quand j'en aurai envie, on n'a jamais envie. Donc si on dit, voilà, chacun voit sa mesure, mais bon. Mais il faut se méfier de ça. On peut très très vite tomber, surtout par rapport au jeûne, parce que le jeûne a quelque chose de valorisant. À titre personnel, on dit quand même, j'ai jeûné, quoi. Voilà, je suis quand même, là, j'ai passé un cran dans ma vie spirituelle, je jeûne maintenant. Voilà, ça. Vous voyez ce que. Cependant, je vous encourage, et je m'encourage moi-même aussi, à passer un cran dans ma vie spirituelle et à jeûner plus, c'est mieux. Mais en disant cela, je ne veux pas, au bout du compte, et j'ai à cœur pour moi-même et pour vous qu'on le fasse, mais je vous dis, attention, si on le fait, qu'on ne soit pas, par retour de bâton, en train de dire, ça y est, je l'ai fait maintenant, je suis quelqu'un de bien, j'ai fait un cran, j'ai fait un pas vers le Seigneur. Voilà. Donc faisons attention à ça, c'est une des limitations. Ce n'est pas suffisant pour ne pas jeûner, mais il faut savoir que ça peut être un danger. Deuxième point, on l'a vu, je n'y reviens pas, c'est le jeûne pour être vu des autres, ils ont déjà leur récompense, tout ça. Si on jeûne pour être perçu comme quelqu'un de super spirituel, ce n'est pas la peine. Hein, voilà. Je passe rapidement. Il y a un point qu'on a un peu abordé, mais sur lequel je veux quand même revenir, c'est cette idée de faire, je parlais au début de la grève de la faim. Et je lui dis en passant, nous les chrétiens, on ne fait pas la grève de la faim devant Dieu. Mais attention, ça aussi, ce n'est pas si évident. Si on dit, mais maintenant, moi, je crois dans la promesse de Dieu, et je vais jeûner jusqu'à la réponse du Seigneur. On croit que c'est une démarche de foi. mais c'est plus proche de la grève de la faim que la démarche de foi, quand même, en fait. Il y a un exemple de grève de la faim comme ça devant Dieu, vous savez, mais ce n'est pas un exemple à reproduire. C'est quand Paul était en prison, à Jérusalem, il a été transporté après à Césarée, mais acte 23, verset 20-21, « Les Juifs sont convenus de te prier d'amener Paul demain devant le Sanhédrin, comme si tu devais t'enquérir de lui plus exactement. Ne les écoute pas, car plus de 40 d'entre eux lui dressent un guet-apens et se sont engagés avec des imprécations contre eux-mêmes à ne rien manger ni boire jusqu'à ce qu'il l'ait tué. Maintenant, ils sont prêts et n'attendent que ton consentement. » Je ne sais pas qui sont devenus ces 40-là, mais à mon avis, ça a mal tourné pour eux. Parce qu'ils ont été forcés de renier, ils ont perdu la face. Quoi. Enfin, c'est pas possible de faire d'avoir un comportement comme ça. Je pense que dans le jeûne, quand le Seigneur dit ton Père qui voit dans le secret te le rendra, je lui dis, on peut obtenir de grandes victoires. Il y a des victoires dans la prière au travers du jeûne, parce que c'est le stabilo de la prière. Mais ce n'est que le stabilo de la prière. Ce n'est pas parce que j'ai jeûné, le Seigneur me le doit. Tant que je priais comme ça, il ne me devait pas vraiment. Maintenant que j'ai jeûné, il va me le refuser quand même. Ça, c'est la grève de la faim. Et vous savez, c'est ténu la différence. C'est subtil la différence entre les deux. Parce que on se met devant le Seigneur avec intensité, on jeûne, quoi. Mais non, on jeûne parce qu'on a soif de lui, parce qu'on veut mieux le connaître, mieux comprendre sa volonté, tout ça. Pas parce que par notre jeûne, on acquiert un droit supplémentaire à être exaucé. Cependant, je crois qu'on est souvent exaucé dans le jeûne et la prière. Alors, un autre danger, peut-être plus grave encore. C'est que parfois, certains d'entre nous, et gardons-nous, pensons pas quand nous sommes protégés de cela, on peut en être aussi, qui ont une certaine faiblesse au plan émotionnel, au plan psychique. Et quand on est dans le jeûne, on se rend encore plus sensible, encore plus vulnérable. On perd un peu de ses défenses, c'est un peu ça le jeûne aussi, de se rendre disponible au Seigneur. Mais donc, on peut quelque part s'ouvrir aussi à des manifestations qui ne sont pas forcément des manifestations du Seigneur. C'est vrai du jeûne et c'est vrai de la veille aussi. Hein. Quand on veille dans la nuit, dans la prière, etc., c'est aussi le danger parfois. Hein. Et donc on peut alors à ce moment-là avoir des visions, croire que le Seigneur répond, entendre des voix, ceci, cela. Et ce n'est pas forcément le plan de Dieu. Attention. Hein. Attention. Donc là, je crois qu'il faut rester, quand on est dans le jeûne, rester vraiment dans l'équilibre, l'équilibre de la parole de Dieu, l'équilibre des choses saines et bonnes que j'essaie de détailler là. Mais pas dire, je vais me mettre dans le jeûne et là, dans mon jeûne, je vais voir vraiment le ciel s'ouvrir et le Seigneur qui va. Je dis que dans le jeûne, on peut trouver la réponse de Dieu par rapport à notre questionnement, par rapport à notre recherche du plan de Dieu. Mais si tu jeûnes et que d'un seul coup, tu vois une route ouverte et que c'est ça et que c'est précisément la direction que tu avais envie d'aller au début de ton jeûne, par exemple, hein, eh bien, ça, c'est dangereux. Parce que ça fait partie de... C'est comme le rêve, ça. Il faut faire attention à cela. On peut, par des mécanismes intérieurs, psychiques, et des fois, l'ennemi en rajoute encore une couche, hein, sans parler forcément que quand on a une vision comme ça, c'est l'ennemi qui... Pas forcément, mais aussi un peu, quand même. Et donc, il faut faire attention. Donc, faisons attention quand on jeûne de ne pas s'exposer comme cela à des choses qui ne seraient pas dans le plan de Dieu et qui nous entraîneraient sur des voies, surtout si on entre dans le jeûne. Voilà. Ah, j'ai envie d'aller en Afrique noire, c'est ça. Je vais jeûner jusqu'à ce que le Seigneur me réponde. Et je jeûne, je me remplis la tête, tout ça, Seigneur. Et finalement, d'un seul coup, au milieu de la nuit, parce qu'on a jeûné, tac, on voit un rêve, l'Afrique noire qui souffre. Non, ça y est, j'ai la réponse de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? C'est dangereux. Parce qu'on s'affaiblit et parce qu'on s'ouvre à tout ça. Mais le Seigneur peut, dans le jeûne, donner la confirmation de quelqu'un qui cherche vraiment sainement le plan de Dieu. Je ne veux pas non plus, vous voyez, toutes ces choses que je dis là, elles sont toutes dans la nuance et dans l'équilibre. Et puis alors, dans les points négatifs, j'attire vraiment un clignotant. Je vous disais au début qu'on peut jeûner, que finalement, on jeûne tous, pratiquement, au moins 12 heures par jour. On n'en meurt pas. Hein. Simplement, nos mécanismes chronobiologiques ne nous réveillent pas à minuit parce qu'on a faim. Mais ils nous réveillent à midi parce qu'on a faim. Ce n'est pas parce qu'on a plus faim, c'est parce qu'il est midi. Et qu'on est habitué de manger à midi. Donc, voilà. Donc on peut, en fait, tout à fait, c'est difficile. Parce qu'on a faim, quoi. Mais en fait, on peut. On prend la liberté de ça, tout ce que je vous ai dit. Voilà. Donc ça, on peut le faire. Même les médecins disent maintenant qu'on peut jeûner beaucoup plus longtemps, en fait. Avant de... Vous savez, il y a même, je ne vais pas entrer trop là-dedans, mais quand on parle de jeûne prolongé, ce que disent les à peu près tous les ouvrages qu'on peut lire, qu'ils soient chrétiens ou médicaux, tout ça, disent à peu près la même chose à cet égard. C'est que on jeûne un jour, le premier jour est assez difficile parce qu'on est tiraillé et tout ça. Bon. Après, on jeûne 2-3 jours, c'est le plus difficile. Ces 2 ou 3 jours-là, en fait. Là, on prouve qu'il faudrait manger, on a faim, tout ça. On est là. Puis après, on entre dans une période un peu plus calme, où on perd même finalement la faim. Et même on a un sentiment de bien-être, de dire, ben, et, par exemple, ceux qui étaient à l'opérer, là, on a jeûné 4 jours, moi j'ai trouvé qu'à passer un certain cap, on avait faim, quoi, mais on n'avait pas, on n'était pas non plus... On a moins faim que le premier jour, quoi, ça c'est vrai. Et on peut rester comme ça. Alors moi, je ne suis jamais allé tellement beaucoup plus loin, mais ceux qui jeûnent plus longtemps, une semaine, 2 semaines, et on s'aperçoit que c'est en fait possible. Je dis que là, il faut être suivi, hein, faut pas y aller à la légère, n'importe comment, hein, quand même. Mais enfin, c'est possible. Il faut faire attention, mais c'est possible. Mais après un certain cap, quand on arrive au-delà de 20 jours, entre 20 et 40 jours, il y a un moment donné, la faim revient. Et là, c'est grave. Il faut vraiment manger, quoi. Il faut arrêter le jeûne. Et c'est ça. Et donc, c'est ce que vous pouvez lire dans tous les ouvrages que vous lisez sur les jeûnes, chrétiens, pas chrétiens, tout ça, c'est à peu près ce qu'on dit. Et on voit d'ailleurs dans la parole de Dieu que Jésus a jeûné 40 jours, après il eut faim. Et donc, ça confirme en fait ça. C'est bizarre parce qu'on peut se dire quand même qu'il aurait dû avoir faim avant, 40 jours. Mais non, justement, c'est qu'on s'établit dans une sorte de situation. Voilà. Donc, là, pour le jeûne, on peut jeûner comme ça. Par contre, il s'agit de ce qu'on mange. Il faut boire. Là, c'est, on peut... On, vivre sans air, allez, 5 minutes au maximum. Vivre sans eau, quelques jours. Mais ne pas manger, on peut rester 40 jours sans manger, et au bout de 40 jours, on ne meurt pas encore, hein, mais on se dégrade gravement. On peut avoir des détails. Mais avant qu'on ne meure de ne pas manger, c'est encore plus loin. Donc, vous voyez, c'est pas pareil, quoi. Mais jeûner en se disant, moi, je vais jeûner sans manger ni boire, là, non. D'ailleurs, dans la parole de Dieu, à part le jeûne de Moïse, dont je parlais tout à l'heure, qui est très particulier, c'est une situation unique et miraculeuse, quoi. Et puis, pour le cas d'Élie, c'est pas trop clair s'il a bu ou pas pendant les 40 jours. Mais s'il n'avait pas bu, en tout cas, c'est pas dit vraiment qu'il ne buvait pas. Il est dit qu'il a eu la nourriture et une cruche d'eau, et qu'avec cette nourriture, il a marché 40 jours. Alors, est-ce qu'il a eu de l'eau pendant 40 jours? Ça, c'est... voilà. Mais en tout cas, Jésus, on a vu, il a bu, hein, pendant les 40 jours en question. Hein. Voilà. Donc, le jeûne sec, alors là, c'est pas possible. Hein. C'est un grand danger, là. Donc, mon dernier point, très rapidement, c'est qu'il faut... Dans tout ça, il faut adapter, quoi. Et même, je dirais, très largement, quand on regarde bien, il y a beaucoup d'aspects du jeûne qui sont spécifiquement attachés au fait de se priver de nourriture. Mais... Il y a pu y avoir des raisons médicales ou autres qui font qu'on ne peut pas. Et au fond, le jeûne, dans son esprit, il n'est pas forcément non plus entièrement là. Et on peut s'abstenir de choses légitimes pour un temps parce qu'on aime le Seigneur. Et m'est venu 2-3 idées comme ça, que je n'ai jamais pratiquées moi-même, mais que pourquoi pas. Par exemple, il est tout à fait raisonnable, même souhaitable, même je vous y encourage, pour un chrétien de s'informer de ce qui se passe dans le monde. Donc un chrétien qui regarde des informations entre 8h et 8h30 tous les jours, c'est très bien. Et si la semaine prochaine on se disait, eh bien ce temps-là, on va pas regarder des informations, on va aller dans un endroit tranquille, on va prendre notre Bible et on va prier. Eh bien pourquoi pas? Et là on est dans l'esprit du jeûne, vous voyez. C'est pour ça, je prends un jeûne très soft, hein, quand même. Mais c'est pour vous dire qu'on peut être dans l'esprit du jeûne, sans forcément aller dans les semaines de jeûne là, dont je parlais, vous voyez, c'est quand même... Et entre dire, tiens, un soir par semaine, je ne regarde pas la télé, je prie, par exemple, et dire, je vais jeûner 3 semaines, il y a quand même de quoi être inventif. Hein. Mais l'idée du jeûne, là, la grande idée du jeûne, c'est de dire, on est pris dans beaucoup de choses, et à un moment donné, c'est bien de dire stop parce que j'ai soif de Dieu. Et ma liberté, c'est de pouvoir dire stop. C'est difficile, ça va me coûter... Mais le bénéfice en est bien plus grand que ce à quoi je renonce. Et donc voilà, c'est ce que je pense qu'on peut dire, un peu en conclusion, si vous voulez. Hein. C'est cela, adapté, alors que ce soit au niveau personnel, au niveau de l'Église, il n'y a pas de règle. Hein. Et c'est tellement personnel, le jeûne. La relation avec Dieu, même dans la prière, hein, la façon dont vous priez, les mots que vous employez, le temps que vous y passez, le type de relation que vous avez avec Dieu, c'est très personnel, en fait. Et le jeûne, ça l'est encore plus, quelque part. Alors voilà. Donc, on a les éléments, là. On a tous les bénéfices. On a quelques clignotants qui s'ouvrent. Et là-dedans, il faut être créatif. Mais je crois qu'on ne peut pas dire, le jeûne, j'ai construit toute ma vie chrétienne sans jamais me poser la question du jeûne, quoi. Voilà. Je crois que ça fait partie de la parole de Dieu. C'est là, quoi. Il faut se positionner par rapport au jeûne. Que Dieu vous bénisse et que Dieu me bénisse aussi. Je vous dirais que moi-même, je suis un peu dans le même état que vous, là. C'est que ce que j'ai dit là, c'est pas un témoignage que j'ai donné ce soir. Hein. C'est la parole de Dieu. Hein. Et je suis comme vous. Je dis, là, Seigneur, là, bon, aide-moi. Voilà. Que Dieu nous aide. Voilà.